Chapitre 3. Le lendemain matin, tous étaient équipés. Cornelius, enveloppé dans une robe de chambre, fut porté dans le beau carrosse doré. Madame de Braca lui tenait la tête et Mademoiselle de Braca les pieds. Podours était sur le siège et ils partirent, le cœur serré d'abord par la peur et ensuite par leurs habits qui, n'étant pas faits à leur taille, les gênaient extrêmement. Cependant, ils étaient assez bien assortis. En revanche, ils coûtaient très cher, ce qui avait fait pousser un soupir au malheureux pot d'ours qui voyait entamer profondément son trésor. Il marchait déjà depuis une demi-heure lorsque Cornelius poussa un grand éclat de rire. « La vieille sorcière pensait nous escroquer, mais c'est moi qui l'ai attrapée dans les vieilles bottes dont elle m'a affublé. On a caché une parure de pierreries. Oh, je ne sais comment cela se fait, mais s'en est pas aperçu. Et prenez ce petit couteau et décousez la couture. » Braca se mit à l'ouvrage, détacha le revers et trouva un riche collier de diamants. Elle porta la main à ses cheveux par une ancienne habitude, ce qui détruisit l'édifice de sa coiffure. Comme cela m'ira bien, dit-elle. En même temps, elle fit mine de le mettre sur son cou jaune et ridé. Mais Cornelius voulut que ce fût Bella qui le porta, et ils allaient se disputer si le voisinage de la ville n'avait détourné l'attention de la vieille. Regardez donc autour de vous, enfants, leur cria Braca. Voilà quelque chose de nouveau pour vous, et vous n'y faites pas attention. Voyez cette richesse lorsqu'on approche de la ville. Les voitures de marchandises sont si nombreuses que nous avons peine à nous frayer un chemin au milieu d'elles. Mais Cornelius et Bella étaient occupés à regarder de beaux cavaliers qui faisaient caracoler leurs chevaux et des bouchers qui tuaient des moutons dans un abattoir. Une charrette pleine de veaux liés ensemble et poussant des gémissements plaintifs, effraya Bella, non moins que le bruit qui se faisait dans une auberge du faubourg, où, malgré l'heure peu avancée, on se querellait et on se battait déjà. Enfin, ils arrivèrent à la porte de la ville. Un bourgeois sortit avec sa hallebarde et leur demanda d'où ils venaient. « Du pays de Haden, répondit Braca, se embarrassé. « Je suis Madame de Braca, voici ma fille et voilà mon neveu, Monsieur de Cornelius. »« Passez !» cria la sentinelle, et la voiture entra dans la ville. Il triomphait, mais en tremblant encore d'être entré dans sans difficulté. Ils se dirigèrent vers la place du marché, où se trouvait une maison que la mère Niedken avait allouée, et s'y installèrent sans autre événement remarquable. Les deux premiers mois furent consacrés à apprendre les belles manières. On eut des maîtres et des maîtresses de toutes sortes. Quand la vénérable Braca faisait quelque faute, elle disait que cela venait du pays d'Aden, où les manières de la noblesse n'étaient pas encore bien formées. Bella acquit bientôt, dans toute sa personne, l'air de la meilleure compagnie. Elle parlait l'espagnol avec facilité. Quelque enfermée qu'elle se tint, elle n'en était pas moins le sujet des conversations de tous les jeunes gens qui, chaque jour, venaient à cheval devant sa maison pour la voir et pour attirer son attention. Cornelius n'aimait pas très bien sa nouvelle position. Les vêtements étaient étroits, le gênaient extrêmement, l'escrime le fatiguait jusqu'à le faire évanouir. Au manège, malgré ses grimaces furieuses, il ne pouvait empêcher qu'on rît de lui à cause de sa taille. Et par sa perpétuelle agitation, il effrayait les chevaux les plus doux, qu'il manquait jamais de le jeter par terre, ce qui, du reste, ne le rebutait pas, car il remontait aussitôt. La chose se répétait souvent 10 fois dans une heure, et un autre homme n'aurait pas pu supporter ses secousses. Il était plus heureux dans ses autres travaux. Il surpassait souvent en éloquence son maître de rhétorique, et le mettait en fureur par ses plaisanteries. Il pouvait parler à chacun dans sa langue, car il les savait toutes sans en employer une de préférence à l'autre. Grâce à ses yeux scrutateurs qui lui permettaient de pénétrer dans la pensée, il connaissait une foule de gens qui le protégeaient et étaient au mieux avec lui. Toutes les nouvelles, tous les bruits de la vie lui arrivaient tout frais. Il les amplifiait, les entremêlait de nouveaux incidents, et ainsi arrangés, les remettait en circulation. Il fit tant qu'on parla de lui à l'archiduc. Mais l'archiduc venait de recevoir la nouvelle qu'à cause d'une lettre où il avait omis d'énumérer tous ses titres, son grand-père Ferdinand l'avait déshérité. Et il rentrait chez lui, furieux de n'avoir tué à la chasse qu'une chevrette pleine qu'il avait prise pour un chevreuil. Le petit Cornelius avait trouvé du rapport entre ces deux aventures et dit à un page que l'archiduc n'attrapait pas mieux les chevreuils que l'héritage de son grand-père. On rapporta ces paroles à l'archiduc, et comme il était très bon, il dit au page de faire venir le plaisant à son dîner. Le petit Cornelius, très ému intérieurement, n'entra qu'avec un air plus impudent et plus arrogant chez l'archiduc. Charles était jeune et sa bonté fit taire l'impression de ridicule produite par l'entrée de ce petit drôle. Charles l'interrogea sur son pays. Le petit répondit en faisant le portrait le plus risible des paysans d'Andenne, et tout le monde aurait juré qu'il disait la vérité. On lui donna beaucoup de morceaux de sucre pour le récompenser. Cela le mit en train. Il commença par se vanter du duel que, pour défendre l'honneur de sa dame, il avait soutenu contre deux cavaliers étrangers qu'il avait tué, mais dans lequel il avait été blessé à la poitrine. De sorte qu'il était revenu à demi-mort à Gand. Et comme quelqu'un lui demandait quel était le médecin qu'il avait soigné et n'avait pas l'air de croire à ce qu'il affirmait, il ouvrit sa veste et leur montra sa peau rugueuse, sa peau de racine, que chacun prit pour une cicatrice. Après avoir célébré cet exploit, il vanta ses richesses et sa famille. Sa tante Bracca était une noble dame, pleine d'expérience, de cœur, de bonté, de tendresse et de grandes manières, comme Gand n'en avait jamais vu. Dans la description qu'il en fit, il mit Bella bien au-dessus d'Hélène. Puis il se mit à raconter une foule d'histoires pour prouver l'innocence de Bella. Histoire qui était toute vraie, mais qu'on ne crut pas, parce qu'on ne connaissait pas sa naissance et sa nature extraordinaire. Enfin, il donna à entendre qu'il allait l'épouser. L'archiduc en ressentit presque un mouvement de jalousie, mais, comme il savait dissimuler, il essaya, en le plaisantant, de le décider à paraître une fois en public avec sa fiancée. Il lui indiqua même, comme un jour convenable, la kermesse de Buick, qui était fréquentée par les Gantois les plus distingués. Cornelius donna dans le piège et choisit pour rendez-vous la maison de la Nienken. Après s'être promis d'être exact, ils se séparèrent. L'archiduc, qui n'avait jamais connu une fille surtout semblable à celle que lui avait décrite Cornelius, éprouvait un sentiment irrésistible qui lui aurait fait aimer la douceur et l'innocence de Bella, même quand elle n'aurait pas eu sa beauté, et qui se perfectionnait de jour en jour. Il demanda à Chenrio, qui avait acquis sa confiance, en sacrifiant souvent ses devoirs aux fantaisies du prince, comment il pourrait éviter la sévère surveillance d'Adrien d'Utrecht, son premier précepteur. Chenrio inventa le moyen suivant. Il préparerait un vieux livre sur lequel il mettrait un faux titre. Il le ferait passer aux yeux d'Adrien pour les sentences de Pierre Lombard, sur lequel il faisait un commentaire, et lui dirait que ce livre était à vendre chez la Nienken. Il se chargeait de le lui faire chercher jusque l'archiduc eût accompli son projet. L'archiduc fut très content de l'expédient. Rien ne fait plus de plaisir à un jeune prince que lorsqu'il peut tromper les gens prudents qui le surveillent pour satisfaire plus librement ses passions. Lorsque l'enthousiasme de Cornelius pour les honneurs dont il avait été l'objet chez l'archiduc fut dissipé en même temps que la fumée du vin qui obscurcissait sa petite tête, il se répéta la conversation qu'il avait eue avec lui. Il se souvint qu'il s'était fait passer pour fiancé et qu'il devait lui montrer Bella à la kermesse. Il était très satisfait, se frottait les mains et ne put s'empêcher d'en parler à Peau d'Ours. Cet incident acheva de faire croire à Cornelius qu'il était amoureux de Bella, et il prit pour de l'amour la tendresse, pour ainsi dire maternelle, qu'elle lui avait montrée jusqu'alors. Il était tellement sûr de cet amour qu'il ne se donna même pas la peine de regarder avec ses yeux scrutateurs quelle était sa pensée. S'il l'eût fait, il aurait vu que ce n'était pas seulement les yeux de Bella qui cherchaient les doux rayons du soleil de mai, et que son cœur commençait aussi à se tourner vers le soleil de l'amour. Il ne connaissait pas cette puissance du printemps qui vient murmurer à chaque fenêtre « Jeune fille, regarde, vois celui-là comme il est beau !» Elle aussi avait entendu la voix du printemps. Elle quittait sans cesse son travail pour aller à la fenêtre, et voilà pourquoi il s'était opéré en elle depuis 2 jours, un changement tout naturel. Elle profitait de l'absence du petit pour aller dans sa chambre qui donnait sur la rue. En soulevant un peu la tapisserie qui fermait la fenêtre, elle regardait sur la place. Un jour, elle vit l'archiduc passer à cheval avec sa suite. Oh, aussitôt un coup violent, comme celui qu'elle ressentit sur la montagne, mais rapide comme la foudre, vint éclaircir tous ses souvenirs. Tout ce qu'elle avait ressenti pour lui, avant l'opération magique de la montagne, un regard de ses yeux charmants le lui avait rappelé. Lorsqu'elle ne put plus le voir, elle se cacha la tête dans les mains, il se mit à pleurer en se plaignant que tout ce qu'elle voyait, tout ce qui l'entourait, lui était odieux. Et Braca, qui étant accouru, ne pouvant en tirer un seul mot, se mit à gémir avec elle. Mais il fallait bien que Bella se confiât à quelqu'un. Elle avoua enfin la vieille, qui elle avait revue. Elle lui dit que tout ce qu'elle apprenait, que cette existence dans une villa lui était insupportable et qu'elle serait bien heureuse d'habiter dans une petite maison, hors de la ville, dans un grenier d'où elle pourrait voir à son aise fleurir le printemps et l'été, dont elle ne voyait l'effet que dans des fleurs en bouquet ou sur de pauvres arbustes en caisse. Dans les nuits tranquilles et silencieuses, je voudrais voir la campagne et prier. Lorsque Braca eut entendu tout cela, elle battit des mains. Tu comprends donc maintenant ce que je te disais au jardin avant de partir pour Buick ? Mais il ne s'agit pas de cela. Je t'indiquerai un moyen qui te servira plus que tes soupirs et tes prières. Tu peux, tu dois avoir cet homme. Car, ma chère enfant, j'ai formé là-dessus depuis longtemps un plan qui a été approuvé par tous les chefs de notre peuple. De ce prince qui héritera de la moitié du monde, tu dois avoir un enfant qui, grâce à son père, pourra rassembler les restes épars de notre peuple et le ramener dans le foyer de ses ancêtres. Ne pleure donc pas, cela te rougit les yeux. Et du reste, je ne veux rien que ton bonheur. Mais comment en avoir un enfant ? Demanda Bella. Faudrait-il qu'il aille à cette source dont me parlait mon père, où l'un doit tenir l'échelle pendant que l'autre descend ? Ma chère, dit malicieusement la vieille, si tu peux te trouver seule avec lui, demande-le-lui instamment. S'il est de bonne humeur, ce qui est probable, il te l'accordera par le moment, tu seras toujours assez forte pour lui tenir l'échelle. Oh, mon Charles doit être si bon, reprit la petite qui ne comprenait pas. Ses yeux et son front me le disent. Lorsqu'en passant à cheval auprès d'un soldat blessé, il ôta son bonnet pour le saluer. Ah, cela m'a fait bien plaisir. Il faudra lui faire dire tout cela par Cornelius. Par la Sainte Vierge, t'en prie, dit Braquard, lui fermant la bouche. N'en dis pas un mot devant Cornelius. Il est si méchant qu'il ne te pardonnerait jamais de lui avoir laissé croire qu'il était ton amoureux. Lui, mon amoureux, s'écria Bella. Mais jusqu'à présent, j'avais eu de l'affection pour lui. Aujourd'hui, je voudrais que nous l'eussions laissé là-haut, à côté de son réfort. Mais il ne me fait plus l'effet d'un homme, je ne sais pas pourquoi. Oh, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mon enfant, dit la vieille. Je me suis toujours fort étonnée de te voir prendre avec tendresse sur tes genoux cet affreux nabo qui te donnait tous les ennuis possibles, te déchirait tes livres pour faire des cornets et renverser toujours de la soupe sur tes robes. Mais sois prudente, suis mes conseils et ne lui laisse rien découvrir. Si je puis lui saisir ses yeux de derrière, je les lui arracherai, de sorte qu'il ne pourra plus rien deviner. Mais, comme il doit nous fournir de l'argent, et l'occasion nécessaire pour voir l'archiduc, flatte-le, et laisse-lui croire que tu l'aimes. Mais cela n'est ni juste ni honnête, objecta Bella. Quelle niaiserie ! S'écria la vieille. Si c'était un homme, oui, mais une mauvaise racine. Quelle injustice, quelle malhonnêteté peut-on lui faire ? Il pouvait aussi bien lui arriver d'être coupé en petits morceaux et mis à la marmite. C'est déjà un bien grand honneur pour une racine que de nous servir de poupée. Oh, je sais bien qu'il sera difficile de nous en débarrasser, mais j'ai là-dessus mon petit plan avec Peau d'Ours, qui a rage de le servir ainsi, et qui, en se retournant dans son tombeau, ne devra pas mieux que de l'emporter avec son trésor. L'archiduc t'aime, nous n'avons pas besoin de tout cet argent. Il ne nous laissera certainement pas mourir de faim. Bella, impatiente qu'elle était de voir l'archiduc, accepta tout. Il fallait d'abord se montrer tendre avec le petit. Le lendemain, elle en trouva l'occasion. Lorsqu'il revint de chez l'archiduc, il lui parla pour la première fois du projet qu'il avait fait de l'épouser à Gand et de s'y fixer avec elle. Braca, qui était présente, lui demanda malicieusement où il en était de ses exploits guerriers et s'il allait bientôt être nommé général ou caporal. Cornelius sourit avec un air de satisfaction intime et lui dit qu'il allait être certainement placé et qu'il avait tout pouvoir sur l'archiduc. Il lui raconta qu'il lui avait donné rendez-vous à la kermesse de Buick et ajouta qu'il fallait faire préparer une belle chambre chez la Nietken. Braca, très satisfaite intérieurement, crut nécessaire de faire quelques objections. Elle prétendait que la Nietken les connaissant pouvait les trahir, que la chose aurait pu se passer aussi bien à Gand, que cependant, avec de l'argent, il serait facile de mettre la vieille dans leurs intérêts. Le voyage fut aussitôt arrêté. Les couturières se mirent à l'œuvre pour faire des habits de fête et on fit tant travailler ce pauvre pot d'ours qu'on prétend que, malgré sa nature d'outre-tombe, il lui arriva de suer à grosses gouttes. Ce pauvre garçon faisait tout ce qu'on aurait pu demander d'un homme vivant, et il mangeait tant que bientôt il reprit une espèce de vie terrestre. De sorte qu'il se passait parfois en lui une lutte entre son corps vivant et son corps mort, alors toute sa peau tressaillait et lui démangeait. La même dissension se répétait dans son esprit à l'égard de ses maîtres. Son corps mort était tout dévoué à Cornelius, tandis que son corps vivant préférait de beaucoup Bracca et la belle Bella, et alors il méprisait complètement le petit, selon qu'il était sollicité par l'une ou par l'autre influence. Nous allons voir qu'il penchait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sans cependant trahir ses préférences. Tout était préparé pour la partie de campagne. Il avait fallu payer une voiture 3 fois plus chère que d'habitude, parce que les gens de la ville, qui ne sortaient pas souvent, avaient choisi ce jour pour prendre un peu l'air. Les vieux habits de fête sortaient des armoires où ils étaient relégués depuis l'année dernière et revenaient à la lumière. Les enfants, levés avant le jour, couraient et criaient dans les maisons. Cependant, tout le monde, n'ayant pas le moyen de se donner la commodité d'une voiture, les uns prenaient des sentiers à travers champs pour éviter la poussière de la grande route. D'autres préféraient suivre le chemin pour voir passer les voitures et les riches bourgeois en grand costume. Mais ce qui piquait surtout la curiosité, c'était la nouvelle que l'archiduc devait honorer de sa présence la kermesse de Buick, où il viendrait avec tous ses pages et une foule de cavaliers condescendant sans exemple dans l'histoire du pays. Les autorités du lieu avaient préparé des discours, élevé des arcs de triomphe et semé des fleurs. De Gand jusqu'à Buick, on avait disposé, sur les points culminants, des paysans avec des drapeaux pour annoncer à l'avance l'arrivée de l'archiduc. Mais le prince, qui s'inquiétait beaucoup plus de la jeune fille qu'il allait voir que de la kermesse, donna le change à la curiosité publique en partant seul avec Chanrio et Adrien dans une gondole bien fermée pour se rendre secrètement dans la maison de la Nientken où Chanrio avait fait préparer des chambres. Pendant la route, il écouta patiemment Adrien qui lui expliquait, lui démontrait le syllogisme suivant. Tous les jeunes gens sont amoureux. Caius est un jeune homme, donc Caius est amoureux. Sans qu'Adrien s'en doutât, Caius était l'archiduc en ce moment. Charles était si amoureux de la belle inconnue qu'il allait voir que ce voyage lui semblait la traversée du Styx au-delà duquel il trouverait une autre vie où tout serait plus beau, plus admirable, plus adorable que dans celle qu'il avait menée jusqu'à présent. Adrien pensait au livre de Pierre Lombard que Chanrio lui avait dit avoir vu chez une voleuse. Chanrio réfléchissait à la faveur dont il jouirait lorsque l'archiduc hériterait du trône. Ils arrivèrent enfin à la maison de Lenientken, et bien que Chanrio lui eût averti, elle parut ne pas les reconnaître et dit qu'elle avait loué sa maison à 2 familles de Gand. Adrien, sans s'occuper de tout cela, lui demanda si on ne pouvait pas aller dans sa bibliothèque. La vieille se mit à rire et lui répondit qu'en fait de bibliothèque, elle n'avait qu'un grenier où l'on pouvait à peine se tenir debout et où il y avait peut-être 2 ou 3 morceaux de lard, manger des vers. Malgré tout ce qu'elle disait, Adrien ne la laissa pas qu'elle ne les y eût conduits. Alors il lui dit que sa maison avait aujourd'hui l'honneur de recevoir l'archiduc et que les familles de Gand pouvaient bien lui céder deux chambres sur la route. La vieille faillit tomber d'étonnement et de respect, et baisa humblement l'extrémité de l'écharpe de l'archiduc. Puis elle courut annoncer à Madame de Braca que l'archiduc était venu et qu'il fallait lui céder deux chambres. Pendant ce temps, le petit était allé sur la place au milieu du village pour attendre le passage de l'archiduc dont il comptait être remarqué. Aussi apprit-il à grand regret qu'il ne viendrait pas, ainsi que le lui annoncèrent des pages qui, arrêtés devant la maison de ville, dont l'architecture somptueuse faisait voir que le lieu avait eu autrefois de l'importance, écoutaient les discours que les conseillers adressaient au peuple à l'occasion du passage du prince. Il allait retourner à la maison pour annoncer à ses femmes qu'il était inutile d'attendre le cortège, lorsque deux amis de Chen Ryu, qui le connaissaient aussi, vinrent à sa rencontre en lui demandant pourquoi il n'avait pas sollicité auprès du prince une place dans la compagnie qu'on venait de former, lui si intime avec l'archiduc et qui avait tant d'influence sur lui. Le petit, tout fier et tout joyeux de ses paroles, qui flattaient sa pensée favorite, entama une conversation avec eux, et comme ils lui offrirent de prendre avec eux un verre de vin à l'auberge voisine, il envoya le fidèle peau d'ours annoncer à ses femmes qu'il était inutile d'attendre l'archiduc et que lui-même était retenu par de graves affaires auprès de plusieurs seigneurs. Le temps passa si vite pour le petit, car, outre les flatteries de ses nouveaux amis, et le vin qu'il lui versait, il était étourdi par l'ivresse de cette foule qui, venue avec l'intention de s'amuser pendant ces trois jours, ne voulait pas interrompre un moment cette occupation. C'était dans cette auberge un entassement énorme de pain, de viande, de gâteaux apportés par les convives ou préparés par l'hôtelier. Il mangeait comme l'on mange lorsqu'on se décarême, et plus d'un se serait étouffé s'il avait pris soin de s'humecter fréquemment de vin et de bière pour amener les aliments à leur place. Les Hollandais, dont le pays était alors puissamment riche par le commerce et le transit de toutes les marchandises du monde, savaient se procurer des vivres à très bas prix. C'était une bagatelle pour un riche citoyen de nourrir et d'entretenir des milliers de malheureux, de sorte que dans les villes, il n'y avait pas de misère, excepté quelques gueux qui préféraient l'oisiveté et la mendicité à toute autre occupation honnête. Souvent, les jours de fête, ces mendiants quittaient leur haillon et, endossant des oripeaux fastueux, donnaient la comédie et imploraient la générosité du public. C'est ce qui était arrivé à Buick. Quelques planches installées sur des tonneaux formaient le théâtre. Un pitre était sur le devant, armé d'un long boudin rembourré en guise de fouet pour frapper les enfants qui essayaient de se glisser dans le théâtre. Une marotte à la main, un bonnet d'âne sur la tête, il débitait des extravagances en s'entretenant avec les assistants. Oh, le petit était ravi de ce spectacle. Il venait d'entendre raconter l'histoire de l'homme que sa femme a changé en chien et qui fait de vains efforts pour démontrer qu'il est bien un homme comme les autres. Cette histoire l'intéressait tant qu'il s'approcha trop près du théâtre et que le pitre lui envoya un coup de son boudin sur le dos. Notre petit, se croyant insulté devant une foule aussi nombreuse, tira son épée et fondit sur le pitre qui, avec son arme, se défendit de la manière la plus risible. Tout le monde criait de joie. Beaucoup de gens, croyant que ce combat entre ce grand et ce petit homme était une plaisanterie comprise dans le programme, les applaudissaient tous deux. Les enfants grimpaient sur les épaules des grands, d'autres montaient sur les tables de l'auberge, s'accrochaient aux barreaux de la maison de ville ou se perchaient dans les arbres pour voir le combat. Les deux seigneurs regardèrent pendant quelque temps en riant le combat de leur protégé. Mais voyant qu'il venait de toucher au mollet le pauvre pitre, et craignant pour lui quelque mauvaise affaire, car les assistants commençaient à s'inquiéter de cette interruption, et un paysan parlait de lui couper le nez et les oreilles, ils jugèrent prudent de s'éloigner, et le cachant sous leur manteau, malgré sa résistance, ils le portèrent dans la première maison passable qu'ils trouvèrent. Le hasard voulut que ce fût la maison de la bonne femme Niedken, qui avait loué deux chambres à deux filles de la ville. La porte avait été laissée ouverte, afin que les hommes pussent s'y glisser sans être remarqués. Les deux filles étaient très contentes de la venue des deux seigneurs et du nain, comme elles l'appelèrent d'abord. Mais il leur fit entendre avec colère qu'il était un jeune officier. Nous ne détaillerons pas la querelle qu'il eut avec elle. Le fait est que, grâce à la malice des seigneurs, à l'impudence des filles et à la vanité du petit, il se fit un tel vacarme que Cornelius voulut sortir. Mais il trouva la porte gardée par le pitre et par le paysan qui voulait lui couper les oreilles. Mais comment nos amoureux employaient-ils leur temps ? L'archiduc, à peine entré dans sa chambre, écouta toutes les portes et s'assura que les deux femmes étaient dans une chambre contiguë à la sienne. Il demanda à Chenryo un instrument quelconque pour faire un trou. Chenryo chercha de tous côtés et finit par trouver un forêt qu'un tonnelier avait laissé la veille dans la cour où il avait mis un muit en perse. Le prince perça tout doucement la porte jusqu'à ce qu'il sentît que le forêt traversa. Il agrandit encore le trou pour pouvoir regarder plus facilement. Son cœur battait violemment sans qu'il sût pourquoi. Mais à peine eut-il approché l'œil de l'ouverture qu'il recula brusquement. Il avait vu l'image embellie du spectre qui lui était apparu autrefois dans la maison de campagne. « Chenryo ! » s'écria-t-il, « nous sommes entre les mains de puissants génies. Nous croyons nous jouer d'eux, mais ce sont eux qui se jouent de nous. Oh, je voudrais m'enfuir, mais je ne le peux pas, elle est si belle. » Chenryo était stupéfait. « C'est le même spectre qui m'a poursuivi dans cette maison de campagne abandonnée, au commencement de l'hiver. Mais maintenant il est devenu humain, et je ne lui veux plus de mal. Oh, lui trouve-moi un moyen qui me permette de lui parler, je pourrais lui dire tout. » « Soyez tranquille, répondit Chenryo, j'y ai pensé. Nous avons du temps devant nous. Adrien est occupé dans ce moment à démontrer que l'appendice que j'ai joué à Lombard n'est pas authentique. Par surcroît de précaution, j'ai fermé la porte de son antichambre, de sorte qu'il ne pourra nous surprendre. Mais maintenant, prince, je vais vous proposer mon plan. La jeune fille a mal à la tête, faites-vous passer pour médecin. Vous serez ainsi seul avec elle. Et en lui tâtant le pouls, vous deviendrez éloquent. En effet, Bella était indisposée. Les préparatifs du voyage, une nuit sans sommeil, la chaleur du jour, l'avaient extrêmement fatiguée, et la mère Niedken était venue aussitôt indiquer à Chenryo le plan qu'il proposait au prince. Le prince eut bien vite endossé une robe noire de médecin avec tout l'attirail du métier. Il entra en tremblant dans la chambre, conduit par la mère Niedken, qui le présenta comme un docteur espagnol. Bella, on le reconnut au premier regard. Et son cœur se partagea entre l'amour et la pudeur. Braca, qu'il avait reconnu aussi, se réjouit fort de la présence du prince. Bella baissa son voile pour cacher son visage, et la vieille passa dans la chambre voisine après avoir fait une profonde révérence. Les deux amants étaient seuls. Tout pouvait s'expliquer et s'éclaircir promptement et facilement. Mais l'archiduc, qui n'avait pas l'habitude de parler aussi intimement aux jeunes filles, ne sut dire que « Donnez-moi votre pouls. Donnez-moi votre pouls, dit-il une seconde puis une troisième fois. Bella lui tendit son bras blanc et potelé. Il lui prit le bout du doigt, qu'il tint longuement entre ses mains. Il voulait lui dire quelque chose, lui parler de l'apparition dans la maison de campagne. Mais il ne prononça que ces mots. « c'est un spectre que j'ai vu. » Puis, et c'est là ce qu'il fit de plus hardi, il lui passa un anneau au doigt qu'il tenait dans sa main. Sa silencieuse jouissance fut interrompue en ce moment par la bruyante arrivée du petit qui s'était égayé chez les filles et, ayant échappé à la surveillance des deux seigneurs, était entré dans la chambre de Bella en parlant de son régiment, de ses soldats et d'autres choses extravagantes. Heureusement, il ne reconnut pas sa fiancée qui était couchée sur le sofa. L'archiduc, qui avait repris toute son assurance, le pria de ne point faire de bruit dans une chambre de malade. Puis, prenant un air solennel, il lui dit que son aspect dénotait qu'il n'avait plus longtemps à vivre. Cornelius recula d'épouvante. Les deux seigneurs qui étaient arrivés lui assurèrent qu'il était très pâle et qu'il pouvait bien avoir attrapé la peste après être resté toute la journée dans la foule. Le pauvre petit n'avait plus la force de se tenir sur ses jambes. Il était complètement ivre. Le prince profita du moment pour lui appliquer adroitement, sur le visage, un large emplâtre qu'il trouva dans sa boîte de docteur. Le petit fit observer qu'il ne voyait plus clair du tout. Les deux seigneurs lui offrirent de le reconduire chez lui, et comme il n'avait reconnu ni la pièce ni Bella, ils l'emmenèrent dans la chambre du prince. Pendant ce temps, Braca était à la torture. L'amour du prince ne s'était pas encore prononcé, et sa générosité était très problématique. Elle avait même appris de la mère Nidken qu'il était quelque peu avare. Cornelius, au contraire, pouvait découvrir tous les trésors cachés de la terre et ne s'inquiétait jamais de la manière dont on dépensait l'argent. Lorsqu'elle vit les deux amants interdits et troublés l'un devant l'autre, elle sentit malgré elle renaître les espérances qu'elle avait faites pour leur avenir, mais cela ne satisfaisait pas encore les projets qu'elle avait rêvés pour son peuple. L'archiduc était de nouveau seul avec Bella. Il s'était hardi, mais elle était inquiète sur le sort de Cornelius et le laissa voir sur sa physionomie, ce que l'archiduc remarqua avec un sentiment de jalousie. Il lui demanda, avec une certaine ironie, si c'était bien là son fiancé. Sans lui répondre, elle lui fit signe de quitter son habit et son rôle de médecin, et de se montrer dans son vrai costume d'archiduc. En le voyant ainsi, elle ne put cacher son admiration. Ils ne s'étaient pas encore parlé, et il savait déjà qu'il s'aimait. Bella finit cependant par lui dire que son mariage avec son cousin dépendait des ordres et des intentions de sa mère et non de sa volonté. L'archiduc lui conseilla de ne pas se soumettre aussi aveuglément aux ordres de sa mère et de ne pas sacrifier sa beauté et son bonheur à une union malheureuse. Mais il ne lui parla pas de son amour. Bella répondit ce qu'on lui avait commandé de dire, qu'elle devait tout à ce riche cousin, qu'il fallait bien se plier au désir des parents, et que, du reste, elle ne connaissait personne au monde qui pût la délier de cette union. Le duc alors lui assura que la moindre peine, le moindre chagrin que son mari lui causerait, il saurait le punir promptement et sévèrement. Ces mots amenèrent une déclaration qui soulagea d'un grand poids non seulement les deux amants, mais aussi Balaka, qui avait écouté tout leur entretien. Malheureusement, la joie de la vieille cessa bientôt lorsqu'elle vit Bella, à laquelle son amour pour le prince rendait tout mensonge odieux, se jeter à ses pieds et lui dire « Oh, je vous en conjure, au nom de mon amour, ne me méprisez pas si je vous ai trompé. Je ne suis pas, ainsi que je viens de vous le dire, la fille de cette vieille qui est avec moi. Je suis la fille de... » Et sa voix se couvrit de sanglots. En ce moment, un des seigneurs qui avait accompagné Cornelius entra et dit au prince qu'il pouvait retourner dans sa chambre, qu'ils avaient ramené le petit en lui faisant faire des détours dans cette maison même qu'il venait de quitter, et que le malheureux se croyait malade à la mort. Le prince sortit brusquement, irrité d'être dérangé au moment le plus intéressant de son entretien. Bella se retira dans la chambre voisine. Le petit arriva, porté par Peau d'Ours, qui appela avec effroi la vieille et redoublait de zèle, craignant de voir finir son service si Cornelius succombait. Lorsque Braca entra, le petit lui dit d'une voix faible qu'il était abattu par la peste au point de ne pouvoir plus se tenir sur ses jambes, que tout tournait autour de lui, qu'il ne voyait plus rien et que sa langue était si peu d'accord avec ses idées qu'il oubliait ce qu'il voulait dire avant d'avoir pu parler. Braca prit un air effrayé et compatissant. Bella ne put s'empêcher de le plaindre en le voyant si pâle. « Ah !» reprit le petit, « si je pouvais retrouver le docteur, qui a si bien reconnu que j'avais la peste, peut-être me pardonnerait-il d'autres remèdes. »« Oh !» dit Baraka, « j'ai bien souvent déjà guéri la peste. » « Oh, je mets une certaine herbe dans l'eau tiède, j'en donne toutes les minutes une tasse et bientôt tout va au mieux. » « Fais donc vite, » dit-il languissamment, s'enfonçant de plus en plus dans son ivresse. Pendant que Peau d'Ours le déshabillait et le mettait sur le sofa, bien enveloppé de couverture, Braca lui faisait avaler de temps en temps une tasse de tisane de fenouil, comme on en donne aux petits-enfants. Bientôt, il fut soulevé par d'épouvantables nausées et se trouva soulagé. Après quoi, il dit en entremêlant ses paroles de hoquet et de gémissement, « On peut donc être le médecin que j'ai vu dans l'autre maison ?» Mais où il pouvait, il faudrait trouver cet homme, il pourrait me guérir. J'ai grande confiance en lui car il a reconnu ma maladie au premier abord. Ouvrez donc la porte, continua-t-il, il fait trop chaud ici. La porte est fermée à clé, répondit Bella. L'archiduc est dans la chambre à côté. L'archiduc ? Ah, c'est bon, le petit sauta du lit tel qu'il était. Mais il ne put se soutenir et fut obligé de s'aller appuyer contre un baquet. L'archiduc est ici et je ne pourrais pas lui parler de ma place de commandant. Mais si je meurs, cela aura empoisonné mon bonheur. » Peau d'ours le roula de nouveau dans ses draps, mais le petit pleurait et demandait en gémissant le médecin qu'il venait de voir. Braca lui assura enfin qu'elle allait le chercher. Elle courut prier la Nidken de décider le prince à paraître encore une fois en médecin. Mais lorsque la vieille Nidken se présenta devant l'archiduc, il tira son poignard et lui ordonna de dire tout ce qu'elle savait à l'endroit de ces étrangers qui étaient peut-être des émissaires envoyés par ses ennemis pour le perdre. La vieille raconta sans réserve tout ce qu'elle savait. Elle dit que Braca était une vieille bohémienne qu'elle connaissait depuis longtemps, qu'elle était arrivée chez elle une nuit avec Bella et le petit, et qu'elle s'était faite conduire avec eux à Gand, où elle dépensait beaucoup d'argent. Elle ne pensait pas que Bella fût son enfant. Elle la supposait plutôt une fille de noble maison, mais sans pouvoir en répondre au juste. Cette jeune fille n'était certainement pas un enfant volé, car elle parlait à Braca d'un air de commandement et d'amitié en même temps. Elle s'entretenait dans une langue étrangère, qu'elle croyait bien être le français. Cet aveu changea toutes les idées du prince. Tout à l'heure, il croyait être tombé dans les filets d'une coureuse. Maintenant, il supposait que cette fille devait être une princesse française dont il pourrait demander et obtenir la main à la cour de France, malgré la volonté de son grand-père. On voit par cette idée que les talents politiques qu'il déploya plus tard ne s'étaient pas encore prononcés dans sa jeunesse, qu'il passait dans des exercices corporels, car il croyait possible une chose dont tout autre aurait fort douté. Chenrio et Adrien lui conseillèrent d'écouter la vieille Nidken, qui le priait en tremblant de reparaître en médecin. L'archiduc y consentit, il se traça quelques lignes avec du charbon sur le front et sur les sourcils pour se rendre encore plus méconnaissable et se fit conduire dans la chambre du malade. Cornelius était impatient de l'entendre. L'archiduc l'interrogea gravement. Le petit se plaignait d'une violente douleur de tête et de vomissement, d'un brouillard épais qui obscurcissait sa vue et d'une éruption qui se manifestait sur tout son visage. Remarquons qu'il n'osait pas se servir de ses yeux de derrière devant le monde, habitude qu'il avait prise en fréquentant la bonne société, autrement il aurait bien vu qu'on l'avait trompé. Enfin, il lui dit que tout son bonheur était anéanti s'il ne le rétablissait pas bien promptement, parce que l'archiduc était dans la chambre voisine, venu tout exprès pour le voir et très probablement pour lui donner une place dans la nouvelle compagnie. « Oh, mon cher docteur » s'écria-t-il dans un enthousiasme guerrier, « mais si je meurs de cette maladie, le monde ne m'aura pas connu dans la splendeur et les honneurs où devraient m'amener ma naissance et mon courage. Souvent, je crois que de méchants enchanteurs s'opposent à ce que je vive de l'existence qui m'est naturelle. » L'archiduc l'écoutait patiemment, en pensant à cette princesse étrangère à laquelle il ne comprenait rien. Il finit par se croire un prince enchanté par une vieille fée, comme on en voyait alors dans les romans espagnols. Cette idée, corroborée avec l'apparition dans la maison de campagne, inspira au prince un certain effroi qu'il aurait inévitablement trahi si le petit avait osé se servir de ses yeux scrutateurs. Enfin, le duc lui dit que le moyen employé par la vénérable dame était excellent, qu'il fallait se laisser couvrir et envelopper de couverture afin de chasser par une abondante transpiration le germe de la maladie. malgré les réclamations du petit, qui prétendait être brûlant comme un poêle, la vieille lui entassa couverture sur couverture, l'y enveloppa jusque par-dessus la tête, et sous le prétexte de préparer quelque chose pour le malade, elle sortit avec Peau d'ours. L'archiduc était encore une fois seul avec Bella. Ils évitèrent de parler du petit. Bella était encore très confuse lorsque le prince se jeta à ses genoux en lui disant « Je ne crois plus à cet aveu que vous m'avez fait, ma bien-aimée. Je devine que vous êtes la fille d'un noble prince. » Et je ne crois pas à tout ce que vous avez cru devoir me dire. Mais je voudrais entendre la vérité de votre bouche, en recueillir l'assurance de votre amour, qui pour échapper aux odieuses exigences de la politique, allait jusqu'à sacrifier tout l'éclat de votre position. Mais ne craignez rien. Je connais mes Hollandais. Ils sont jaloux de leur liberté et sauront bien défendre la mienne. Et s'il nous faut céder à la force, n'avons-nous pas la mer et ce riche monde qu'on vient de découvrir ? Bella, qui ne connaissait rien à la politique de l'Europe, sinon que le prince son père n'y avait jamais été respecté, mais toujours poursuivi et proscrit, crut que l'archiduc avait découvert sa naissance et voulait l'épouser. Elle se plaça devant lui, les yeux baissés, puis le regarda et lui dit d'une voix tremblante qu'elle l'avait trompé une fois, que ça avait été la première et que ce serait la dernière, qu'elle avouait sa naissance, qu'elle avouait l'amour depuis longtemps allumé en elle par le prince et que sa présence venait de raviver. Elle inclina la tête en rougissant et l'archiduc allait toucher le bord de ses lèvres lorsque le petit, se remuant sous ses couvertures, cria en se plaignant de douleurs d'estomac et en jurant qu'on allait l'étouffer au lieu de le guérir. L'amour nous rend compatissants. L'archiduc courut vers lui et lui ôta toutes ses couvertures. Il fumait comme un pudding qu'on débarrasse des serviettes dans lesquelles on l'a fait cuire. Il l'examina, lui ôta l'emplâtre qui couvrait son visage baigné de sueur et lui assura qu'il serait bientôt guéri. Il lui dit qu'il allait lui envoyer deux remèdes actifs et qu'il n'avait qu'à se tenir tranquille pendant ce temps. L'archiduc sortit. Le petit, dont l'ivresse était entièrement dissipée et qui voyait clair maintenant, était étendu sur le lit, avec la béatitude de l'individu qu'on vient de sauver de la mort et qui tient beaucoup à la vie. Il prit la main de Bella, la serra, et lui dit que l'idée de mourir lui avait été très douloureuse, surtout parce qu'il l'aurait laissée seule. Alors il paraissait si doux et si affectueux que la tendresse maternelle de Bella lui ôta le courage de lui confier son nouvel amour et son bonheur récent. Mais, tandis qu'il l'embrassait comme il avait coutume, l'archiduc les épiait par le trou de la porte, furieux de se voir tromper une seconde fois et de s'être laissé prendre par Bella avec une crédulité d'enfant. Le petit essaya de se mettre sur ses jambes. Il pouvait se tenir et marcher. Il remit ses vêtements en ordre et dit à Bella de s'apprêter parce qu'il allait lui amener l'archiduc et lui recommanda, s'il était de bonne humeur, de demander pour lui une place de capitaine et qu'elle pourrait le flatter tant qu'elle voudrait, car de là dépendait son bonheur. Une fois cela obtenu, il se marierait avec elle, libre de toute préoccupation. Bella ne répondit pas. Le petit, plein de ses idées guerrières, avait oublié sa maladie et ses excès de vin. Il parcourait la chambre d'un air important, et m'y braqua à la porte lorsqu'elle revint avec son seau d'eau chaude. Ainsi sont faits la plupart des petits hommes. Ils ont le cœur si près de la tête que lorsque le cœur se met à bouillir, il déborde dans le cerveau. Notre petit Cornelius ne pouvait plus se tenir en place. Enfin, il se décida à aller faire sa cour au prince et alla le trouver dans sa chambre au moment même où il brûlait de jalousie. Aussi, à peine eut-il exposé l'objet de sa demande, que l'archiduc l'accabla d'injures, l'appelant petite mandragore, faussaire et sale racine. Cornelius, profondément étonné de cet accueil, et ne sachant où le prince avait appris tout cela, s'enfuit en lui criant « Mon gracieux seigneur, mais qui vous a donc dit tout cela ?» Rentré dans la chambre, il ne dit mot de la réception qu'il venait d'essuyer. Mais Braca vit bien sa physionomie, qu'il était découragé. Il leur dit seulement qu'il n'avait pas trouvé l'archiduc et qu'il désirait s'en aller bientôt de ce lieu où il courait à tout moment le danger d'être attaqué de la peste. En même temps, il demanda si le docteur n'avait pas apporté quelque chose. Braca, pour ne pas l'irriter, alla en toute hâte à la boutique d'un docteur juif ambulant et acheta les plus violents élixirs capables de réveiller un mort et les porta au petit en lui disant que c'était ce que le médecin avait laissé pour lui. À peine le petit eut-il avalé les élixirs que tout son courage lui revint. Il était furieux de ne pas avoir répondu vertement aux injures de l'archiduc. Et il était si en colère que, dans l'intention de se venger sur le prince ou sur quelqu'un des siens, il se décida à rester un jour de plus. Le moment le plus bruyant de la fête était arrivé. On venait de commencer les courses à cheval nu. Le cavalier, pour gagner le prix, doit couper avec son sabre une corde à laquelle est attachée une oie. On était assourdi par le hennissement des chevaux et les rires qui éclataient lorsqu'un des cavaliers tombait par terre. Aussi, Cornelius y mena-t-il ses dames, et emporté par sa vivacité, il fut bientôt séparé d'elle et Braca put écouter un peu ce que sa pupille avait à lui dire. Bella lui raconta que l'archiduc voulait l'épouser. Braca se récria, disant que cela avait son mauvais côté et qu'il ne fallait pas s'engager là-dedans, qu'il fallait lui faire entendre hardiment et sans détour qu'elle voulait avoir de lui un enfant qui fît le bonheur de son peuple, qu'ainsi tout s'arrangerait sans qu'on eût besoin de cérémonie. Bella promit de lui dire tout cela exactement lorsque l'occasion s'en présenterait. La colère du prince allait bientôt lui en donner une. Il avait avoué à Cernoio toute sa jalousie, et ce dernier avait eu aussitôt une excellente idée. Dans une baraque de lanternes magiques, il avait retrouvé un savant, juif polonais, qu'il avait beaucoup amusé autrefois par son talent à faire des golems. Les golems sont des figures d'argile, pétris à la ressemblance d'un individu. On leur écrit sur le front le mot « Aemaet », c'est-à-dire « vérité », qui leur donne la vie. Ils pourraient être employés à toutes sortes d'occupations s'ils ne grandissaient avec une telle rapidité qu'ils deviennent bientôt plus forts et plus grands que leur maître. Mais tant qu'on peut atteindre leur front, il est facile de s'en débarrasser. Il suffit pour cela d'effacer la première syllabe « ae » et de ne laisser que « maet » et « maeth » qui veut dire « mort ». Aussitôt, il tombe comme un bloc d'argile brisé. On fit venir le vieux juif et l'archiduc lui demanda une figure de ce genre représentant Bella et lui promettant de le payer princièrement. Le juif l'avertit qu'il ne fallait pas s'oublier avec ces figures, et que dans son pays, elles avaient occasionné beaucoup d'accidents. Son cousin, entre autres, avait un golem qu'il employait pour son service journalier. Mais peu à peu, il devint si grand qu'on ne put plus atteindre le front pour effacer la haie. Il eut alors recours à l'expédient suivant. Il lui ordonna de lui retirer ses bottes. Pour exécuter cet ordre, le golem se baissa, et le cousin profita de cette position pour lui effacer la haie. Malheureusement, il avait mal pris ses mesures. Toute l'argile tomba sur l'infortuné qui fut écrasé. L'archiduc lui jura que tel accident ne lui arriverait pas et qu'il n'avait qu'à s'occuper de faire l'image de Bella exactement ressemblante. Le juif demanda seulement qu'on trouve un moyen de faire passer l'image de Bella dans un miroir enchanté qui en garderait l'empreinte. Le miroir se trouvait dans la baraque de la lanterne magique et toute la difficulté était d'y attirer Bella. Cenerio, qui connaissait Cornelius, se chargea du soin de l'amener, lui et sa belle, à la lanterne magique, tandis que le prince déguisé serait caché dans la baraque. Chacun courut à son poste. Cenerio trouva le petit aux courses. Il lui dit à l'oreille de ne pas prendre à cœur la colère du prince, à qui de mauvaise langue avait méchamment raconté son aventure avec les comédiens. Il lui conseilla de tâcher de détruire cette mauvaise impression en soutenant au prince qu'il n'avait pas eu de sa faute et qu'il avait été dans ce moment-là mordu par un chien enragé. Le petit, tout joyeux, le pria de rester avec lui et lui présenta sa fiancée. Cenerio lui dit maintes galanteries et lui conseilla de ne pas se retirer sans entrer auparavant à la lanterne magique, où l'on voyait en petit toutes les villes et tous les peuples du monde. Ils entrèrent. Bella regarda la première, malgré la mauvaise humeur du petit, qui se trouvait assez vexé d'être obligé à cette politesse. Elle était émerveillée de toutes ces magnificences, et aurait volontiers fait recommencer toute la série des points de vue si le petit, impatient de regarder à son tour, ne l'avait détaché de la lorgnette. Ce qu'il voyait le mettait tout hors de lui. Chaque ville qu'on lui montrait, il croyait en être le prince. S'il voyait des soldats étrangers, il se regardait lui-même pour voir s'il avait aussi bonne tournure qu'eux. Pendant ce temps, l'archiduc s'entretenait à voix basse avec Bella. Il lui reprocha la honteuse fausseté avec laquelle elle avait exploité son amour dans le but d'obtenir une place de capitaine pour son fiancé. Bella fondit en larmes et lui jura qu'il en était tout autrement, que son amour pour lui n'était pas une feinte, et que son plus grand, son plus noble désir était d'avoir de lui un enfant qui donna à son peuple la gloire et la liberté. Cette franchise mit le prince dans un certain embarras, où il était profondément et complètement innocent, mais innocent par vanité. Il lui jura, enfin, qu'il ferait tout son possible pour satisfaire ce désir qui n'allait pas contre ses obligations politiques. Après cette assurance, il l'emmena sans que le petit s'en fût aperçu de ce qui s'était passé, et Braca donna le signal de se retirer. Cornelius s'arracha à regret de ce microcosme qu'il regardait pour la troisième fois et qui lui plaisait bien plus que le véritable monde. Pendant ce temps, le vieux juif, tout en causant avec Cenerio, travaillait à la statue de Bella. « Mais comment pouvez-vous donc leur donner la vie ?» lui demanda Cenerio. Le juif, lui en démontrant la possibilité, par la ressemblance de l'homme avec Dieu. Dieu a créé l'homme. L'homme, image de Dieu, peut donc créer d'autres hommes, pourvu qu'il sache le mot que Dieu prononça en lui donnant la vie. Mais l'ouvrage de l'homme reste toujours au-dessous de celui de Dieu, autant que l'argile de notre terre est inférieure à celle du paradis. Et tout en disant cela, le juif avait terminé son ouvrage. Il souffla sur la statue, écrivit le mot sacré sur le front inondé de boucles de cheveux, et ils virent devant eux une seconde Bella qui, par le moyen du miroir, connaissait toute l'existence de Bella, mais seulement jusqu'au moment où elle s'y était regardée. Du reste, cette fausse Bella n'avait aucune idée propre. Elle n'avait dans l'âme que ce qui était dans celle du vieux juif, son créateur. L'orgueil, la luxure et l'avarice, qui sont, comme tous les vices, l'excès de nobles penchants. Mais comme elle n'avait aucun autre sentiment élevé, elle différait en cela même du juif et de tous les autres hommes, qu'elle pouvait cependant tromper par sa beauté, comme ce tableau qui représentait des fruits si habilement peints que les oiseaux, les prenant pour des fruits véritables, venaient se heurter contre la toile. Fenelio et le vieux juif s'approchèrent de la seconde Bella, lui donnèrent chacun un baiser et la mirent au bras du petit qui, ayant assez vu la lanterne magique, rentra à la maison avec sa Bella à travers une foule de promeneurs et de paysans ivres qui se querellaient. Ni Bracca ni Cornelius ne s'étaient aperçus du changement. Ils soupèrent tous trois en silence, ce qui était bien naturel après tous les événements extraordinaires d'une telle journée. Ils finissaient leur repas lorsqu'arriva Peau d'Ours, le visage tout égratigné. Ben, « c'est cette infernale vieille qui m'a mis dans cet état. L'ivrogne avait jeté le grappin sur moi, elle n'a pas voulu me lâcher que j'ai reçu ses confidences. Elle m'a découvert que le duc devait avoir quelques vues sur notre jeune demoiselle, car il avait demandé des renseignements sur elle avec beaucoup de soin. Bella Golem, qui ne savait rien des pensées que l'autre Bella avait eu depuis qu'elle s'était regardée dans le miroir, cria tout haut, « Oh, comme je serais contente s'il pouvait me donner un enfant qui mit mon peuple en liberté !» Bracca fut atterré de cette exclamation intempestive. Cornelius sauta vers elle comme un furieux. « Mais tu l'aimes donc, Bella ?» lui répondit-il. « Certainement, » dit-elle. Oh, le petit, exaspéré, s'arracha les cheveux et faillit étouffer de rage. Puis, se rappelant les leçons de son professeur, il exhala sa douleur dans un admirable et pathétique discours. « Pourquoi, par tes enchantements infernaux, m'as-tu arraché à la tranquillité de ma première vie ? Le soleil et la lune brillaient sur moi sans artifice. Je me réveillais dans de paisibles pensées et le soir, je joignais mes feuilles pour faire ma prière. Je ne voyais rien de mal, car je n'avais pas Dieu. Je n'entendais rien de mal, car je n'avais pas d'oreille. Oh, mais je me vengerai. Je perdrai mes yeux à force de pleurer. Dussé-je y consumer toute ma vie. Ce que tu as fait causera ta perte. Quand tu me croiras loin, je serai à tes côtés. Oh, tu ne peux te défaire de moi aussi facilement que tu m'as créé. Et en te jouant, oh, je resterai près de toi. Je te donnerai de l'argent pour satisfaire tous tes désirs. Je t'apporterai des trésors tant que tu en demanderas, mais tout cela pour te perdre. Tu voudras m'éloigner, te débarrasser de moi. Mais je serai toujours là, attaché à tes pas, jusqu'à ce qu'une autre mérite ma colère par une perfidie plus noire que celle dont tu m'as rendu victime. Malheur à toutes les races à venir! Ah, tu m'as amené au monde par des moyens infernaux, et je ne pourrai en sortir qu'au jour du jugement dernier. Bella Golem, revenant dans les idées de Bella, lui parla de la tendresse qu'elle ressentait pour lui, malgré tout l'amour de l'archiduc. Cornelius la regarda avec étonnement et lui dit « Oh, tu pourrais bien me tromper encore. Qui sait si tu n'es pas convenu de quelque chose pour cette nuit avec le prince ? Donne-moi une marque de ta sincérité. Il fait clair, la lune brille, le temps est superbe. Partons. Nous arriverons demain matin à un village où on nous bénira et nous rentrerons mariés à Gand, que nous quitterons bientôt de crainte d'être poursuivis par l'archiduc. Nous gagnerons Paris où j'irai offrir mes services au roi de France qui sait apprécier les gens de courage malgré leur petite taille. » Bella Golem ne répondit pas. Elle n'avait pas de volonté ni de réponse pour cet incident auquel Bella n'avait pas pensé. Le petit supposa qu'elle acceptait, et comme Bracca s'apprêtait à faire quelques observations, il tira son épée et jura de l'atteindre de son sang si elle s'opposait à son bonheur. La vieille fut épouvantée et se tut. Le petit ordonna à Peau d'Ours de faire les paquets et de trouver à n'importe quel prix un cocher qui les conduisit à la plus proche paroisse, car il était trop tard pour trouver à Buick un prêtre pour les bénir. Peau d'Ours, très content de s'en aller et d'échapper à l'ivrognerie de l'hôtesse, fit tout avec le plus grand zèle et la plus louable discrétion. La voiture étant à la porte, ils montèrent tous dedans, sans que la mère Nidka n'y comprît rien. Pour éviter ces crises insupportables, on lui jeta le triple du prix qu'elle exigeait. Cette étrange compagnie, composée d'une vieille sorcière, d'un mort qui se conduisait comme s'il était vivant, d'une jeune beauté en terre glaise, et d'un jeune homme taillé dans une racine, tout cela en bonne intelligence, se livrait à d'importantes réflexions sur le bonheur de la vie qu'ils allaient mener, sur leurs trésors, leurs exploits, et Peau d'Ours pensait aux gratifications extraordinaires qu'il recevrait à l'occasion de cette solennité.